Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue au Mardi de l'Espace. C'est une grande première, en tout cas c'est la première de cette saison ce soir. Et on a tout un programme, vous avez vu ça avec les petits documents, là, les petits marque-pages hein, que vous allez pouvoir mettre dans vos livres. Alors, si vous avez regardé le mois prochain, on va parler de Dorne. Dorne, c'est le retour de la France sur la Lune. C'est le fait qu'on a un instrument qui est parti sur la Lune à bord de la sonde chinoise Chang'e 6 pour étudier la dynamique de l'atmosphère de la Lune et les propriétés thermiques et physiques du sol. Le mois d'après, on va parler de Bepi Colombo, qui est une sonde qui est en partance pour Mercure. Ariane 6, on va en parler en janvier, les secrets du vol inaugural, on va revenir là-dessus. Donc plein de choses, il y en a neuf en tout au cours de cette saison 2024-2025. Mais pour l'heure, on va commencer avec Gaïa, les dessous de la Voie lactée, organisée par le CNES, hein, comme tous les mardis d'espace, ils sont toujours organisés par l'Agence française de l'espace. Donc on va partir ce soir en exploration dans la Voie lactée, dans notre galaxie, qui est un ensemble, vous savez, une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Et là, c'est un ensemble de 300 milliards d'étoiles. Et Gaïa en fournit l'image la plus complète et la plus détaillée jamais obtenue. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on organise un mardi d'espace consacré à Gaïa, c'est la quatrième fois, figurez-vous. 2013, 2017, 2020, 2024. Et oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire, nouvelles, parce que à chaque fois, dans des maths d'espace comme ça, on redécouvre cette mission, c'est passionnant, mais surtout, on en reparle à cause de la science qui est produite, à cause de la moisson extraordinaire de connaissances qui est réalisée jour après jour. Rendez-vous compte, en ce moment, l'Agence spatiale européenne a 15 missions spatiales en vol. 15 missions. Eh bien, il y a une mission qui produit plus de science que les 14 autres missions réunies, eh bien, c'est Gaïa. Ça vous en dit long sur ce satellite superbe lancé en 2013. Alors, on va voir comment il réalise sa mission, en quoi elle consiste, où il se trouve. Puis, on va surtout parler de science et puis de tous ces objets de la galaxie. On va parler d'étoiles, d'exoplanètes, d'astéroïdes, de trous noirs, de quasars, de naines brunes, car Gaïa peut tout voir. Et on va le faire avec nos deux intervenants. Est-ce que vous auriez l'amabilité de les accueillir avec quelques applaudissements, je vous prie ? Olivier Lamarre et Céline Rellet. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, Céline Rellet ? Dites-nous qui vous êtes.
Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis astronome à l'Observatoire de Besançon. Et donc, je fais ce métier depuis environ 20 ans.
Vous êtes quoi, astrophysicienne ?
Astrophysicienne.
Bon.
J'ai fait une thèse sur les comètes et après ma thèse, j'ai changé de sujet de recherche et je me suis mise à travailler sur la Voie lactée, essayer de comprendre sa formation, son évolution, sa structure.
Changement d'échelle alors pour le coup.
D'accord. Voyage interstellaire. Et du coup, j'ai été tout de suite plongée dans Gaïa qui était encore à l'époque, qui n'existait pas encore, qui était encore sur le papier. Et donc ça fait, je ne sais pas, on est en 2024, ça ouais, ça fait 25 ans.
Bon, bien.
Baigne dans Gaïa.
Le lancement, c'était 2013, donc vous étiez là avant.
Gaïa, qui à l'époque était encore en lettres majuscules, était un acronyme et qui a perdu ses majuscules.
Ah, c'est joli, voilà. Voilà, elle devient plus commune, elle fait partie de la famille, quoi. Bon, c'est bien. Et votre laboratoire, c'est UTINAM, Univers, Théorie, Interface, Nanostructure, Atmosphère, Molécule. Tout ça. Bon, parfait. Et à votre côté, Olivier Lamarle. Alors vous avez déjà parti, on vous connaît, hein, on te connaît même. On va continuer à se vous voyez, mais enfin, on se tutoie normalement. Et notamment sur d'autres, vous êtes venu participer à d'autres événements Gaïa.
Oui, moi je suis entré au CNES en 2001. Et pendant des années, j'ai fait complètement autre chose que Gaïa, que l'astronomie. Et donc pendant que Gaïa se préparait, au début, je ne savais même pas que Gaïa existait.
Ah bah bravo.
Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai changé de boulot et je me suis retrouvé responsable, on appelle ça responsable de programme donc celui qui fait un peu le suivi de tous les projets dans le CNES, dans lequel le CNES baigne en astrophysique, donc responsable du programme astrophysique.
C'est le programme Sciences de l'Univers, hein, c'est comme ça que ça s'appelle ?
Alors, maintenant, oui, je m'occupe du programme Sciences de l'Univers, qui comprend l'astronomie, mais aussi la planétologie, etc. Et ça, c'était en 2008. Et l'un des gros projets qui était en préparation, donc, que je devais suivre, c'était Gaïa, qui a été lancé en 2013, effectivement, mais qui a nécessité une petite dizaine d'années de construction, le satellite, et puis la préparation des logiciels pour analyser les données. Tâche qui se continue encore aujourd'hui. Hein, c'est pas fini. Même le codage des logiciels n'est pas encore fini.
Et moi-même, je m'appelle Paul Debrême, j'anime des événements scientifiques, techniques, en particulier dans les domaines spatiaux, et je suis ravi d'être avec vous à nouveau pour cette saison qui commence. Et on a avec nous, bien sûr, comme à chaque fois, Xavier Ferrand. Bonsoir Xavier.
Bonsoir tout le monde.
Tu nous as préparé quelque chose alors ?
Je suis ravi d'être à nouveau parmi vous cette année. Et donc, comme vous avez compris, Gaïa, c'est un peu une suite d'épisodes, en fait. Donc, moi, je vais reprendre tout simplement le générique de cette série, la série Gaïa, que j'avais fait déjà il y a 10 ans avec Olivier. Il était déjà là, je crois bien. Ça donne « Dans l'espace toujours en mouvement, vit la plus belle des merveilles. »
C'est Maya, ça.
« Qu'on l'ait vue depuis longtemps. »
Ça me dit quelque chose.
« S'envoler à travers le ciel. » Cette petite merveille porte le nom de Gaïa.
Gaïa.
Une experte en spectroscopie, Gaïa. Gaïa. Qui nous apprendra, c'est vrai, les secrets de la Voie lactée. Venez donc découvrir la malicieuse Gaïa.
Gaïa.
Céline et Olivier sont là pour ça. Tout le monde adore Gaïa.
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 Gaïa, l'univers est à toi. Merci Paul pour les cœurs.
Ben, je vous en prie. Gaïa, bon, formidable. Alors, je reprends mes petites notes après avoir chanté si ardemment. Donc, je disais en entrée et en introduction que tous les 3 ans, tous les 4 ans, on refait un point sur Gaïa parce qu'il y a tellement de science qui est produite, Olivier Lamar, là, avec Gaïa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment c'est possible qu'on produise autant de science avec Gaïa ? Plus qu'avec les 14 autres missions réunies de l'Agence spatiale européenne ?
Alors, j'ai mis longtemps à essayer de comprendre quelque chose à Gaïa et j'ai toujours pas. Je suis très loin d'avoir tout compris, mais au début, des experts essayaient de m'expliquer, ils me disaient : mais tu sais, Gaïa, c'est le Facebook des étoiles.
Alors, le Facebook des étoiles.
Alors, comme je suis pas très réseaux sociaux, c'est encore moins à l'époque, ça m'éclairait pas. Mais bon, ça en éclaire certains, il paraît. Donc,
il faut imaginer que chaque étoile a sa page Facebook, quoi, c'est ça l'histoire, ouais. Hein.
Voilà, donc il faut imaginer
chaque
que...
Étoile, chaque étoile, chaque corps de la galaxie.
Voilà, si les catalogues Gaïa étaient utilisés par autant de gens que Facebook, vous imaginez un peu l'impact qu'auraient les catalogues. Alors évidemment, c'est plus limité à la communauté scientifique, donc forcément, ça n'a pas l'impact de Facebook. Mais c'est pour ça que ça produit autant de science, c'est que c'est un couteau suisse, une base de données. Tout le monde vient y chercher ce qu'il veut et le trouve, quasiment. Comme vous l'avez dit, astéroïdes, planètes, étoiles, galaxies lointaines, trous noirs.
Tout y passe.
Tout y passe.
Tout y passe. Galaxies lointaines, hein, donc ce n'est pas limité à notre galaxie.
Tout ce qui est visible.
Tout ce qui est visible,
mais,
absolument.
Mais même l'invisible.
Ah d'accord.
Puisque Gaïa découvre des trous noirs.
Tout ce qui est visible et en plus l'invisible.
Voilà.
Bon, pas mal.
Et au-delà.
Et au-delà, d'accord. Et alors vous m'avez dit quelque chose comme, on publie avec Gaïa 2 fois plus que Hubble, c'est en ce moment ça. Ou c'est...
C'est en ce moment depuis 4 ou 5 ans déjà.
Ah, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et puis, d'accord, ok. Et là, il paraît qu'il y a même des scientifiques qui, en fait, exploitent les données Gaïa, mais qui ne citent même plus Gaïa, quoi. C'est tellement passé dans la...
Oui, alors c'est peut-être vrai aussi pour Hubble, je sais pas.
Ah oui, d'accord, bien sûr, bien sûr.
Les vieilles missions... qui sont tellement emblématiques. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui utilisent des données ou qui réutilisent des articles qui ont déjà été publiés sur Gaïa.
Ah oui.
Sans forcément... Alors, ils citent l'article, mais ils disent pas que c'est basé sur des données de Gaïa. Parce que...
Alors Céline Rélé, racontez-nous, c'est extraordinaire ces publications. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Gaïa, par rapport à d'autres missions de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA ?
Alors, comme mon sujet de recherche, c'était comprendre la structure de la Voie lactée, sa formation et son évolution, c'était tout naturel que je m'intéresse à Gaïa, puisque Gaïa, vraiment le cœur de la mission, c'est de comprendre, c'est l'arpenteur de la Voie lactée.
L'arpenteur de la Voie lactée, qu'est-ce que c'est un arpenteur ?
Ouais, c'est Gaïa a vraiment pour mission de scruter la Voie lactée et de la comprendre, donc à la fois sa forme, sa structure, parce que Gaïa a une particularité très forte, c'est d'être capable de mesurer la distance entre nous et l'étoile. Donc avoir un peu une vision en trois dimensions de la Voie lactée. Et puis pour un très grand nombre d'étoiles, donc environ 1,5 milliard d'étoiles, même un peu plus. Ce qui est à peu près 1% des étoiles de la Voie lactée. On estime qu'il y a 150 milliards d'étoiles, 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, mais ça reste quand même énorme.
Là, quand vous parlez d'étoiles, c'est des corps, en fait.
Là, je parle des étoiles.
Là, vous parlez que des étoiles.
Et comme le Soleil.
Les étoiles, c'est quand même la grande masse de ce qui est vu par Gaïa.
Et en plus, Gaïa aussi mesure les positions des étoiles très précisément, mais à différentes époques. À différents temps, ce qui permet
à différents moments, différents moments de dans une année, y compris à des années différentes.
Pendant toute sa mission, je crois que c'est à peu près en moyenne 80 fois que chaque étoile est observée par Gaïa. Ah, enfin, c'est pas en moyenne parce que ça dépend de la position sur le ciel.
Les étoiles ne bougent pas dans le ciel, ça n'a strictement aucun intérêt à votre histoire.
Elles ne bougent pas, vous ne les voyez pas bouger, mais Gaïa a des bien meilleurs yeux que vous. Et Gaïa est capable de mesurer les mouvements des étoiles. Hein. Toutes les étoiles tournent autour du centre de la Voie lactée.
Il faut s'arrêter une seconde, parce qu'on nous a appris que les étoiles ne bougeaient pas, mais que les planètes, elles, bougeaient. Et donc, c'est fou. On peut voir depuis la Terre, pourvu qu'on ait un œil extraordinairement précis, on peut voir des mouvements d'étoiles.
Oui, d'accord. Mais vous ne le verrez pas, mais...
On peut les détecter.
On peut les détecter, oui. En fait, on a à la fois cette vision un peu en trois dimensions d'une grande partie de la Voie lactée, mais aussi son évolution, ses mouvements qui retracent un peu son évolution.
Alors, c'est une machine à tout voir dans la galaxie, on pourrait dire quelque chose comme ça ?
En fait, même plus que tout
voir. À tout détecter,
parce que,
plutôt.
Ouais. Comme disait Olivier, tout ce qui est détectable, donc plus brillant qu'une certaine... la limite de détection de Gaïa. Mais comme Gaïa scrute tout le ciel, il se pose pas, il fait pas de sélection. Toi, tu es une étoile, c'est bon. Toi, tu es un astéroïde, je veux pas de toi. Enfin, il prend vraiment tout ce qui passe... Il mesure tout ce qui passe devant ses yeux. Et donc, on a effectivement non seulement les étoiles, mais aussi des astres du système solaire, des astéroïdes, et puis aussi des astres beaucoup plus lointains, des galaxies extérieures, des quasars.
Donc, c'est le Facebook de la Voie lactée, finalement. Donc, tous les objets de la Voie lactée ont finalement leur fiche signalétique, on peut dire ça. Et si je vais sur ce Facebook, qu'est-ce que j'apprends sur chacun de ces objets ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de chacun de ces objets ? J'ai compris, par exemple, qu'on allait pouvoir voir son mouvement. Il y a sa position 3D dans l'espace. Il y a son mouvement, donc je sais quelle est sa trajectoire, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sa luminosité, je suppose ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme information ?
Il y a sa couleur.
Sa couleur ? C'est intéressant, là, la couleur d'une étoile ?
Ben oui, c'est très intéressant. ça apporte en fait des informations sur les propriétés physiques de l'étoile. Donc typiquement, on peut faire un petit test. Quelle propriété physique de l'étoile modifie sa couleur ?
Quelle propriété physique de l'étoile modifie sa couleur ? Moi, j'ai une idée. Sa chaleur.
Ouais, sa chaleur.
D'accord.
Et donc, les étoiles chaudes sont... Elles sont quoi ? Quelle couleur ?
J'ai aussi une idée, mais il faut laisser d'autres répondre.
Oui, les étoiles chaudes sont bleues et les étoiles froides sont rouges.
Je me serais trompé. Bleu chaud et rouge froid,
oui,
c'est ça ?
C'est pas comme le robinet.
C'est n'importe quoi.
Ouais, c'est comme la flamme de la bougie, là, la partie la plus chaude est bleue et la partie...
D'accord, la partie au centre est bleue et la partie plus lointaine est rouge.
Donc voilà, typiquement... C'est ça. Donc typiquement, ça c'est une propriété qu'on peut avoir grâce à l'observation de la couleur. Ensuite, on a aussi un spectromètre, comme c'était dit dans la chanson de Gaïa, là. Un spectromètre qui mesure aussi la vitesse de l'étoile sur la ligne de visée. C'est-à-dire, est-ce que l'étoile se rapproche de nous ou s'éloigne de nous ? C'est par effet Doppler. Comme avec le son d'une... d'une ambulance qui change quand la source se rapproche de nous puis s'éloigne. Et la même chose avec la lumière. La source, la lumière de la source lumineuse change selon qu'elle se rapproche de nous ou qu'elle s'éloigne de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est mesurable.
On reviendra peut-être sur ces histoires de spectre, effectivement.
Et puis, donc aussi des compositions chimiques de l'étoile et des...
La composition chimique de l'étoile que je peux voir en analysant la lumière de l'étoile grâce au spectromètre.
C'est ça.
D'accord. Bon. On a fait le tour ?
Non.
Non ?
Oui, ok. On a oublié... on a oublié dans le dernier catalogue, là, qui vient de sortir, pas mal de nouvelles paramètres sur la variabilité.
Qui vient de sortir, il va sortir, non, le DR4 ?
Non, celui qui est sorti en 2021.
Ah, DR3, qui vient de sortir 2022, en 2021, d'accord.
2022. Des informations sur la variabilité des étoiles. Les étoiles, elles peuvent changer de luminosité au cours du temps. Et aussi des informations sur des étoiles doubles. Des informations...
Des étoiles doubles, il faut rappeler ce que c'est.
Étoiles, ben c'est deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre.
Deux étoiles qui tournent... C'est un système avec deux étoiles au centre. Oui. Comme si le soleil il y avait deux soleils qui tournaient l'un autour de l'autre. Ouais.
C'est comme la planète Tatooine. C'est la deux étoiles.
Tatooine, exactement. Il a un double soleil dans Star Wars.
Et donc ça, c'est que pour les étoiles. Après, il y a aussi les quasars, des galaxies, des astéroïdes. Supernova. Enfin.
Alors Gaïa a un énorme problème. Énorme problème. C'est que Gaïa ne fait pas d'image. Du coup, on n'a rien à montrer. D'une certaine manière. Hein. Est-ce que ça participe pas ? Parce que finalement, on est en train de se dire, c'est absolument extraordinaire. Il y a une grande partie de la science, de l'astronomie qui est en train de se baser sur Gaïa. Mais en même temps, on ne peut pas montrer, comme avec des Hubble, du JWST ou que sais-je, des images extraordinaires de ces corps. En termes de communication, ça, c'est compliqué.
C'est certain encore que l'ESA arrive à faire des opérations de com' avec des images reconstituées, etc. Avec ça, nos astronomes ne doivent pas trop se plaindre parce qu'ils auraient pu être physiciens des particules au CERN. Et voilà, pour le boson de Higgs qu'il a vu dans les opérations de com'.
C'est vrai.
Donc, on peut quand même faire montrer des choses.
Il y a de belles images du LHC quand même, du CERN.
Oui, alors oui.
L'anneau, il est spectaculaire.
Les installations, alors que les installations de Gaïa, on en parlera peut-être, c'est des ordinateurs dans des salles et des tables avec des gens qui travaillent dessus. C'est un peu moins spectaculaire.
Mais il y a quand même la carte du ciel de Gaïa là, qui est une fausse image puisque c'est effectivement une reconstitution à partir du catalogue. Et donc en fait chaque point est une ligne dans le catalogue.
Ça, c'est une vraie image entre guillemets reconstituée évidemment, mais à partir des éléments
à partir du catalogue.
Du catalogue. Wow.
Donc chaque point est à la position de l'étoile et avec une brillance plus ou moins grande qui correspond à la luminosité de l'étoile et c'est quand même beau. On voit le plan de la Voie lactée, on voit les nuages de Magellan en dessous, on voit des traces noires qui sont de la poussière dans le disque de la Voie lactée. Le bulbe au centre.
Le bulbe au centre, oui. Absolument. Alors, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est qu'une galaxie. Là, il faut nous raconter, parce que qu'est-ce que je vois là
voilà. Une galaxie, c'est un ensemble de, on va dire, 150-200 milliards d'étoiles, une galaxie comme la Voie lactée. Qui est dans le cas de la Voie lactée, c'est une galaxie spirale, donc c'est quelque chose de très plat.
Spirale, alors ça,
C'est une représentation de la Voie lactée.
Ah, ouais. D'accord, on dirait qu'il y a deux bulbes un petit peu,
En fait, c'est une représentation de la Voie lactée qui est superposée avec ce qui est coloré, c'est un peu ce que Gaïa scanne.
D'accord. Alors, donc on a cette image, et donc spirale, parce qu'on voit des grandes spirales.
Ouais.
Hein. Bon.
Les plus belles images de galaxies, c'est pas la nôtre. Quand on a les belles images prises par le James Webb, Hubble, etc., c'est Andromède, c'est M31, c'est pas la nôtre parce que nous, on peut pas avoir de belles images. Et Gaïa a un peu été inventée pour ça. C'est pour être capable de reconstituer ce genre de vue en mesurant les positions et en 3D. Donc une fois qu'on a les positions en 3D des étoiles, eh ben on peut les mettre sur une reconstitution et on a une vision assez exacte. Alors Céline a dit à peu près 1% des étoiles seulement observées par
Alors
Gaïa.
Alors oui, Gaïa a observé 1% des étoiles, 1,5 milliard d'étoiles environ.
Mais ça suffit.
Ça suffit à quoi ?
Ça suffit pour reconstituer ce qui se passe dans la galaxie. Parce que ces étoiles sont représentatives des concentrations qu'il y a locales, donc en extrapolant... Bon, c'est toute une tambouille que Céline connaît mieux que moi. Mais ça suffit déjà pour... Par exemple, les étoiles les plus lointaines de Gaïa dans la Voie lactée, celles qui sont de l'autre côté, à l'autre bout, on va dire.
À l'autre bout de la Voie lactée par rapport à nous. Lactée, hein.
Évidemment, Gaïa voit les plus brillantes. Les plus faibles, elle ne les voit pas, c'est trop loin. Néanmoins, elle peut en déduire ce qui se passe dans cette région, aussi en analysant les étoiles en question, leur âge, parce qu'on n'a pas parlé de l'âge, mais on a leur âge aussi avec tout ça. Donc, d'où elles viennent aussi, leur trajectoire.
D'où elles viennent ?
Ben oui, parce qu'on a leur trajectoire.
Et alors, Céline Rallet, vous êtes d'accord avec ce que Olivier vient d'expliquer ? Alors, expliquez-nous pourquoi, avec 1% d'étoiles seulement, l'idée, c'était on allait pouvoir voir qu'un seul pourcent d'étoiles, 1,5 milliard d'étoiles seulement, et l'idée, c'était d'essayer d'avoir une répartition la plus homogène possible dans la galaxie, dans toutes les directions ?
Alors... Ce qu'on essaye de faire pour étudier la Voie lactée, puisqu'effectivement, on ne peut pas l'observer, avoir une belle image, et on utilise un peu des modèles qui essayent de reproduire les observations qu'on a. Donc, dans ce modèle, on va par exemple dire que le centre de la Voie lactée il est à telle distance, que le bulbe il a telle taille, qu'il y a 3 ou 4 ou 5 bras spiraux.
On cherche les structures, là.
On cherche
alors,
les structures.
4 ou 5, on ne sait pas.
On ne sait pas trop.
D'accord, bon. Gaïa va nous le dire,
il donne des pistes, ouais. Ouais. Mais bon, ça reste encore quelque chose de relativement... Enfin, qui reste un petit peu incertain. Et en fait, du coup, quand on a 1,5 milliard d'étoiles, on peut effectivement raffiner le modèle et contraindre des paramètres du modèle qui nous permettent de mieux comprendre la Voie lactée dans son ensemble.
Et pour la petite histoire, le modèle mondialement utilisé, le plus abouti pour représenter la Voie lactée, il s'appelle le modèle de Besançon.
Ah, d'où,
par hasard.
D'où vient votre laboratoire ? Elle ne m'avait pas dit ça, c'est très, très... D'accord, bon, très bien. Alors, oui, je t'en prie, mais invite-toi, je vais chez toi.
Ce soir, je retrouve ma maison. Je sais que je m'attends encore à un drame. C'est de surprendre mon garçon devant Instagram. Mais comment lui dire qu'il n'y a, avec Facebook, rien de plus bête, alors que j'apprends que Gaïa est le Facebook des planètes.
Merci. Alors, au mardi de l'espace, on vous passe le micro assez rapidement. On a fait une petite introduction, on a lancé la chose. On a encore plein de choses à se dire, notamment des découvertes récentes réalisées par Gaïa. Mais si vous avez envie de discuter avec les intervenants, c'est le moment. C'est le moment.
Bon, premièrement, j'ai l'habitude, quand j'ai fait des animations scientifiques sur l'astronomie, de dire qu'une galaxie, c'est une sorte de grand pain au raisin. Sauf que c'est un très très grand et qu'il y a quelques milliards de raisins. Et donc ça a un peu la forme. Et accessoirement, je ne me souviens plus quel est le développement du nom ou acronyme Gaïa.
Donc Gaïa, au moment où il était présenté, où les scientifiques l'ont présenté, ont essayé de le vendre à l'ESA, c'était Global Astrometry and Interferometry for Astrophysics, je crois. Parce qu'en fait, donc, l'astrométrie, c'est vraiment ce que fait Gaïa, la mesure des positions, des distances, des mouvements des étoiles. Mais dans la première version rêvée par les scientifiques, il y avait aussi un interféromètre qui permet de faire des
observations.
Ben oui, ah, mais oui. Après, bon, il y a
parce
eu des contraintes
budgétaires. Il y aurait dû y avoir deux Gaïa, c'est ça ?
Non, mais il y avait un instrument supplémentaire.
Ah, d'accord.
Qui faisait de l'interférométrie. Et donc ça a été... c'est pas passé, c'était trop coûteux. Donc le nom est resté, Gaïa, mais en minuscule, et sans tréma.
Là, qu'est-ce qui nous limite à 1% des étoiles ? Pourquoi est-ce que 1% seulement ? Est-ce qu'on regarde le 1% qui est le plus brillant parce que les autres sont trop ténus ? Ou est-ce que... C'est quoi la raison ?
C'est juste ça.
Ah, d'accord,
c'est juste
d'accord.
La limite en luminosité des...
La limite
de Gaïa.
En luminosité, oui, Olivier Lamarne.
Il faut voir que dans un beau ciel d'été, à l'œil, on voit quelques milliers d'étoiles. 4, 5, 6 000 au grand maximum. Et encore, je pense que c'est sur les deux hémisphères. Donc nous, on envoie peut-être 2 ou 3 000 dans notre hémisphère. Donc Gaïa envoie 1 milliard et demi. C'est déjà mieux.
Pas mal.
En termes de sensibilité, c'est déjà pas mal.
C'est déjà mieux. D'autres interventions, peut-être ?
Bonjour. Du coup, depuis 2013 que ça a été lancé, vous avez donc... Vous identifiez, en fait, combien d'étoiles, entre guillemets, par jour, enfin... quelle proportion depuis le lancement vous avez réussi à scanner, à analyser, et combien il en reste, et pour qu'on, entre guillemets, combien d'années
Je dirais que dès les premières années, on avait tout vu, en gros. Et ensuite, comme le disait Céline, on passe notre temps à les revoir et les revoir et les revoir.
Donc, 1,5 milliard d'étoiles en...
Alors,
ça fait beaucoup d'étoiles. Ça fait beaucoup d'étoiles.
On a des experts que j'ai entendu parfois en conférence dire depuis qu'on a commencé la soirée, Gaïa a observé 40 millions d'étoiles.
Ah oui, d'accord.
Des choses comme
bon,
ça.
D'accord, d'accord. Ouais.
Mais maintenant, le temps passant, parce que Gaïa, c'est un satellite qui tourne en permanence. Sur lui-même.
Et puis,
comme il est sur l'axe Terre-Soleil, enfin Soleil-Terre, mais plus loin que la Terre, il tourne avec la Terre, donc il fait un tour autour du Soleil.
Il tourne autour du Soleil
en un an. Et sur lui-même. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un an, il a scanné tout le ciel, et puis il recommence. Donc en fait, il réobserve inlassablement les mêmes étoiles, et il empile les données. C'est pour ça que c'est compliqué le traitement, parce qu'il faut tout retraiter à chaque fois. À la fois, le flux reçu, on l'additionne au flux d'avant. Ça fait plus de signal. On voit si ça a varié. Et puis, on remesure les positions pour voir si ça a bougé, si ce n'est pas une erreur, etc. Mais maintenant, c'est essentiellement les mêmes étoiles. Mais tout l'intérêt, c'est le suivi. C'est un peu comme les climatologues, là, nos collègues qui font des satellites pour eux. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas une meilleure performance, c'est un suivi très long terme pour voir les petites variations. Donc là, c'est ça maintenant qui nous intéresse, parce qu'en fait, c'est une machine à voir la gravité, quoi. En fait,
à voir la gravité.
On voulait voir la gravité à l'œuvre.
C'est-à-dire, alors attendez, racontez-nous ça.
C'est la gravité qui mène l'univers, je dirais. En tout cas, c'est celui, l'univers visible qu'on voit. Et tout à l'heure, vous disiez pour rire, mais non, les étoiles, elles ne bougent pas. Alors en fait, c'est la grande découverte contemporaine, c'est que dans l'astronomie, c'est que tout bouge. En fait, les objets dans le cosmos, ils sont comme des vélos. S'ils ne bougeaient pas, ils tomberaient. Hein. Si quelque chose ne bouge pas, il y a forcément un champ de gravité, il y a un corps quelque part qui l'attire, donc il tomberait dessus.
Je serais attiré par
voilà, donc forcément, si les objets ne tombent pas tous les uns sur les autres, c'est qu'ils tournent. La Lune, la Terre autour du Soleil, etc. C'est vrai pour les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie, dans lequel qui baigne dans un halo d'étoiles et de matière noire qui fait une grosse masse qui les attire.
Au centre.
Donc tout bouge, voilà. Ouais. Tout bouge. Alors bon, les étoiles qui tournent autour du centre de la Voie lactée, on le savait, mais maintenant on a une bonne mesure très précise avec Gaïa. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, à force de remesurer, c'est de voir les étoiles qui ne font pas un beau cercle ou une belle ellipse autour du centre, mais qui ont des petites variations. Et c'est comme ça qu'on se dit, celle-là, c'est bizarre, au lieu de faire sa trajectoire, elle a des petits mouvements. Ah, bah, c'est parce qu'elle a une exoplanète autour d'elle. Ou alors il y a un trou noir qui est juste à côté. Voilà, c'est ça que ça devient intéressant.
Donc sa trajectoire, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement ce disque tourne sur lui-même, hein, ce qui explique aussi les bras spiraux, je suppose. Non, pas du tout. Si ?
Les bras spiraux ne sont pas enroulés à cause de la rotation de la galaxie.
Bon. Mais voilà, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mmh. Quand on regarde le siphon de son lavabo, on voit des jolis bras spiraux que fait l'eau en tournant, mais c'est pas ça.
Non, si c'était le cas, en fait, il y aurait plus de bras.
Il y aura un mélange.
Bon, après, on n'explique pas forcément très bien les bras spiraux. On suppose que ça peut être des problèmes dus à des perturbations par des petites galaxies satellites à la Voie lactée qui viennent faire des perturbations gravitationnelles.
En tout cas, ça tourne. Et on peut dire quand même que les étoiles au centre tournent plus vite que les étoiles à l'extérieur ou pas ?
Non, si on regarde.
Non.
Alors si on regarde ce qu'on appelle les courbes de rotation des galaxies, qui sont la vitesse de rotation en fonction de la distance au centre de la Voie lactée, c'est des choses qui montent et puis qui s'aplatissent comme ça. Mais on a un plateau au bout d'un moment. Pour le Soleil, on est à, je ne sais plus mal son, 250 km par seconde.
250 km par seconde, ouais, d'accord. Ouais. Autour du centre, c'est ça ?
Oui.
OK.
Mais oui, on a... Et après, ça s'aplatit et ça c'est s'aplatit. Pas très
c'est-à-dire
bien compris.
Si on va vers l'extérieur, on va pas tellement moins vite ou plus vite. C'est grosso modo, la vitesse est grosso modo la même.
C'est d'ailleurs un petit peu étonnant parce que la théorie de la gravitation nous dit que ça devrait se ralentir au bout d'un moment.
Ah oui.
Puisque plus on s'éloigne de la galaxie, moins il y a de masse. Et en fait, c'est comme ça qu'on suppose qu'il y a... ce qu'on appelle la masse manquante ou la matière noire, donc la masse non visible dans la Voie lactée. Mais ceci dit, je crois qu'il y a eu des résultats très récents avec Gaïa, c'est ça ?
Alors, oui. Alors faisons un point sur la matière noire, parce que tout le monde connaît ce terme. Il faut peut-être rafraîchir les esprits pour rappeler ce que c'est d'une part. Et puis, d'où vient cette idée qu'il y aurait une matière noire, donc une matière invisible, une matière qui serait présente, mais qu'on ne verrait pas, qu'on ne pourrait pas voir, qui ne serait pas de la matière baryonique. La matière baryonique, c'est la matière dont nous sommes constitués, cette lampe, votre pizza, cher monsieur. Voilà, matière baryonique, matière classique. Et en fait, il y aurait une autre matière qui, elle, serait invisible, mais qui aurait des effets gravitationnels, quand même.
Alors, peut-être juste pour bien expliquer ce que c'est que cette histoire de vitesse d'étoiles qui devrait décroître vers l'extérieur de la galaxie, c'est comme dans le système solaire. Dans le système solaire, la Terre va beaucoup plus vite que les planètes externes, comme Jupiter ou Saturne. Alors, Saturne, je crois, met 20 ans, ou c'est Jupiter, ou 30. 30 ans à faire le tour du Soleil, pendant que la Terre fait 30 tours, pendant que Saturne en fait 1. Donc, plus on s'éloigne du Soleil, plus on va doucement. Parce que sinon, avec la force centrifuge, les planètes s'échapperaient et quitteraient le système solaire. Donc, on s'attendait historiquement à ce que les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie, où il y a la plus grosse concentration de masse, ce soit pareil. C'est-à-dire que les étoiles les plus lointaines aillent très lentement. Et en fait, comme dit Céline, les mesures qui ont été faites pendant des décennies montraient que maintenant, elles vont à peu près à la même vitesse où qu'elles soient.
Donc elles vont relativement vite en
donc
réalité.
Donc les étoiles externes. Éloignées vont vite.
Oui. Et là.
Et devraient s'échapper.
Ah, elles devraient s'échapper. Puisqu'on constate, on pensait qu'elles devraient aller lentement, on constate qu'elles vont plus vite que ce qu'on imaginait, mais si elles vont à cette vitesse-là, elles devraient s'échapper. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne s'échappent pas? Comme un manège, quoi, finalement. Plus je suis loin du centre du manège, plus j'ai de chances d'être éjecté.
Donc on s'est dit, on va calculer la masse de toutes les étoiles qu'on voit. Et puis ça doit être ça qui les retient, c'est ça qui fait. Donc on sait peser les étoiles. Ça peut paraître bizarre, mais on sait les peser plutôt bien par différents moyens. Et donc on regarde toutes les étoiles qu'on voit, on confronte ça au modèle, on fait des calculs de masse. On est très loin du compte.
C'est-à-dire qu'il manque
C'est des
étoiles
de grandeur
pour expliquer le fait que
même si on se trompe d'un facteur 5 ou 10 sur la masse des étoiles, ça n'explique quand même pas que les étoiles extérieures ne s'échappent pas.
Elles devraient s'échapper, elles ne s'échappent pas. Donc il y a forcément quoi, de la matière qui les retient.
Donc il y a de la matière qu'on voit pas.
Qu'on voit pas. Voilà. C'est la matière noire.
Ce qui n'est pas scandaleux. Je pense que nos scientifiques nous ont appris à perdre l'habitude de penser qu'on voit tout et qu'on sait tout. Il y a des choses qu'on voit pas. Soit, d'accord. On n'est pas assez avancer pour tout voir. Donc, d'où cette idée de matière noire, qui ne vient pas que de là. C'est-à-dire qu'on a d'autres manifestations.
Ça fait quand même des décennies qu'on sait ceci, qu'on a pensé cela sur la matière noire.
Et il y a eu d'autres observations, comme la déformation des images des galaxies lointaines, des galaxies qui nous parviennent sous forme d'arc, alors que visiblement les galaxies, ou voire même avec deux images fantômes.
La même galaxie qu'on voit deux fois dans le ciel.
Comme quand il y a une loupe. Donc là, on sait que la lumière est déviée par la masse, par un objet massif.
Donc entre la galaxie et nous, il y a quelque chose de massif.
Mais on ne voit rien.
Donc là il doit y avoir de la matière noire.
On se dit matière noire.
Bon.
Sauf que, effectivement, avec les dernières données de Gaïa,
là, ça fait quelques décennies que ce discours-là, on le tient. Au mardi de l'espace, qui existe depuis 14 ans, c'est la 14e année, je ne l'ai pas dit, c'est ce qu'on dit depuis 14 ans.
On nous aurait menti ?
Mais je ne sais pas, vous allez nous le dire. J'ai eu l'impression que oui.
Alors, en 2022, donc, Gaïa a sorti son troisième catalogue, il y en aura 5 au total.
On va s'arrêter une seconde sur ce qu'est un catalogue. Il y a une nouvelle version de mon Facebook tous les 4-5 ans.
Voilà.
Donc c'était le DR3. Le
milliard et demi d'étoiles avec tous leurs paramètres de position d'étoiles, de couleur, d'âge, de métallicité, de température, etc.
Avec des nouveautés dans chaque catalogue.
Avec notamment les vitesses sur le ciel. Et on a dit que plus on revient les observer périodiquement, plus on affine la trajectoire, parce qu'elles se sont déplacées, mais sur un petit segment, on n'est pas très précis, mais au bout de 10 ans, on commence à être pas mal précis. Alors, on n'a pas encore traité les 10 ans, on en est plutôt aux 5 ans. Là. Et rien qu'avec les 5 ans, on voit les étoiles se déplacer, et là, on a une bonne idée de leur vitesse. Et en fait, on s'est aperçu que quand on disait les étoiles extérieures vont vite, alors on faisait un calcul, une mesure, et assez imprécise encore avec les moyens d'époque. Donc, les scientifiques, ils ont l'habitude de caractériser leur erreur. Donc, on fait des points, mais on met une barre d'erreur sur le. Et donc, on avait des barres d'erreur assez importantes sur les vitesses de ces étoiles. Et ces barres d'erreur, elles avaient l'air à peu près alignées. Gaïa fait des mesures beaucoup plus précises, donc en diminuant la barre d'erreur. Et le point au milieu de la barre d'erreur, il n'est plus du tout aligné. Il a tendance à redescendre vers... Alors, on est toujours compatible des grandes barres d'erreur qu'il y avait avant, mais on se disait on doit être à peu près au milieu de nos... Hein, quand on fait une erreur, on se dit on est à peu près au milieu.
On est au milieu de la barre d'erreur.
On n'était pas au milieu.
Pas du tout.
Gaïa nous dit on est trop haut. Donc, en fait, la vraie valeur, elle est plutôt en bas. Donc, ça redescend, la vitesse.
Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, les étoiles externes vont moins vite que ce qu'on imaginait.
Elles vont moins vite.
Donc, on a moins besoin de matière noire pour expliquer...
On a moins besoin de matière noire. Alors, le débat qui va nous occuper pendant longtemps, c'est est-ce qu'on n'en a plus besoin ? Est-ce que Gaïa s'est trompé ? On est quand même encore en train de vérifier.
Là, on est embêté, là.
On ne pense pas. Hein. Alors, donc c'est intéressant. C'est quand même...
Alors, c'est une réalité, là. C'est incroyable, cette histoire sur la matière noire. Donc, là, Gaïa débarque et dit, bah, non, finalement, matière noire, c'est peut-être pas si... est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'il y en a autant que ce qu'on imagine ?
Ben, la question reste encore ouverte, mais effectivement, c'est une question qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup d'astrophysiciens.
Mais ils adorent ça, les astrophysiciens, ils aiment réfléchir. Oui.
Et il y a même en fait des théoriciens qui revoient en fait les théories de la gravitation. Telle qu'on la connaît, et pour expliquer en fait ces mouvements, non pas par de la matière noire, mais par des théories qui seraient modifiées par rapport à celles qu'on utilise aujourd'hui.
C'est peut-être Newton et Einstein qui se sont trompés, c'est pas Gaïa.
Ah, ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. D'autres interventions peut-être, on peut quitter la matière noire, on peut aller ailleurs, on peut poursuivre notre...
Une petite anecdote pour illustrer le fait qu'à chaque fois qu'on fait une mesure plus précise, c'est tout l'intérêt de pousser la technologie pour aller faire des mesures plus précises, alors qu'on pensait avoir à peu près compris quelque chose. Avant Gaïa, il y a eu Hipparcos dans les années 90. Donc 1,5 milliard d'étoiles pour Gaïa. Hipparcos, c'était 120 000, mais c'était déjà 100 ou 1000 fois mieux que ce qui existait.
C'était une mission de l'Agence spatiale européenne
également.
C'était
une mission de l'Agence spatiale européenne.
C'était une mission pionnière, là.
Pionnière, c'est la première fois.
On faisait de l'astrométrie, encore une fois. Voilà. C'était les débuts, voilà, dans l'espace.
Et au moment d'Hipparcos, il y avait un petit problème dans la Voie lactée. C'est que, j'ai parlé tout à l'heure des âges des étoiles. Donc l'âge des étoiles, on le détermine en plaçant les étoiles, quand on les mesure, on mesure leur luminosité et leur couleur, et on les place sur une sorte d'abac.
En fait, quand vous écrivez abac, j'ai aucune idée.
A-B-A-Q-E.
Q-E, d'accord, voilà. Très bien, j'ai aucune idée de ce que c'est un abac.
Eh ben, c'est une sorte de graphique,
oui,
qui vous dit, voilà, les étoiles. Alors ça, c'est un diagramme un peu compliqué à expliquer, mais couleur, donc en fonction des couleurs et de la luminosité. Toutes les étoiles qu'on observe, on les place et on voit qu'elles ne sont pas réparties n'importe comment. Ça fait des bandes. Et en fait, ça correspond au cycle d'étoiles. Elles se déplacent au cours de leur vie le long de ces bandes.
Qu'est-ce qu'on a en ordonnée et en abscisse, là ? La couleur, c'est en
Céline,
abscisse.
Au secours.
Et en ordonnée, la luminosité.
En abscisse, c'est la couleur donc, qui est liée à la température. Donc à gauche, on a des étoiles bleues et chaudes. Et à droite, on a des étoiles rouges et froides. Et puis, les étoiles les plus lumineuses sont en haut et les moins lumineuses sont en bas.
Donc je peux être très chaud et pas très lumineux.
Alors, ouais, quand on arrive en fin de vie, quand on est une naine blanche.
Ah oui, je suis très chaud, mais ok.
Ouais, mais il est condamné à se refroidir.
Mais il n'y a pas beaucoup de très froid.
Si, il y en a.
Très lumineux.
Étoiles géantes et les étoiles super géantes qui, du coup, sont des étoiles évoluées. Soleil. Et juste pour préciser, pourquoi on est capable de faire ce schéma, puis ça nous enthousiasme autant que ça d'avoir ce genre de graphique, c'est que c'est pas facile en fait. Quand vous regardez deux étoiles sur le ciel, vous allez avoir une étoile qui va vous paraître peu lumineuse et une étoile à côté qui paraît la même luminosité, mais vous pouvez pas dire si c'est une étoile peu puissante proche de vous ou une étoile très puissante loin de vous. Et donc ça, si vous savez pas ça, vous pouvez pas faire ce graphique parce que vous pouvez pas tracer la luminosité. Vous pouvez juste dire la luminosité apparente.
La luminosité mais est importante, celle que je vois, mais si je sais pas quelle est la distance, voilà, ça ne me dit rien de l'étoile elle-même.
Et donc typiquement, ben, on pourrait très bien confondre une étoile tout en bas, là, une naine rouge, qui est une toute petite étoile qui fait le dixième de la masse du Soleil, dixième de rayon du Soleil, d'une étoile géante qui fait... 10 fois le rayon du soleil.
Mais beaucoup plus lointaine.
C'est comme en pleine nuit, une lampe de poche à 20 mètres ou le phare d'une voiture à 1 km. Si on n'a pas d'autres points de repère, on ne sait pas. Et alors là où c'est intéressant, c'est que donc, Céline a bien mis en évidence l'importance de la distance. C'est pour ça que c'est si important avec Hipparchos puis Gaïa de mesurer les distances. Parce que les positions sur le ciel, on peut les voir, mais la distance, on n'avait aucun moyen. On pourra dire comment on fait Gaïa. Et donc à l'époque d'Hipparchos, on faisait ce genre de graphe. Et ce genre de graphe, il nous donne l'âge de l'étoile, parce qu'effectivement, elle se déplace des plus lumineuses vers le rouge en vieillissant, etc. Et on avait des étoiles qui étaient plus vieilles que l'univers.
Des étoiles plus vieilles que l'univers, ouais. Ah, d'accord.
Dans notre galaxie.
Wow.
C'était quand même un peu embêtant. Et on avait beau refaire les calculs, non. Et puis Hipparchos est arrivé à mesurer la distance. Alors, on en parlera, mais c'est une vraie mesure, hein, avec un double décimètre, quoi. Comme nos yeux, hein, avec la parallaxe.
Avec les deux yeux, on arrive à avoir une sensation de relief. On sait si les objets sont proches ou lointains. C'est un peu la même chose avec Hipparchos. Avec Hipparchos et Gaïa, d'ailleurs.
Et Hipparchos a dit, on se trompait sur la distance. Donc, corriger la distance, en fait, le phare était plus loin ou moins loin, je ne sais plus, mais corrigé de ça, en fait, on a pu replacer l'étoile au bon endroit, elle n'était pas du tout plus vieille que l'univers. Donc là aussi, l'importance de réduire la barre d'erreur, parce que sinon, on arrive à des incohérences.
Alors, est-ce qu'on peut, puisqu'on est en train de parler d'âge, l'univers a 13,8 milliards d'années, on peut dire ça, quelque chose comme ça, et la Voie lactée, elle a quel âge ?
Alors, les premières étoiles se sont formées assez rapidement après ce qu'on appelle le Big Bang, la formation de l'univers. C'est, je crois, 500 000 ans après le Big Bang. On a déjà les premières 500 millions d'années. Voilà, 500 millions plutôt d'années. Donc on peut dire que les galaxies, elles ont 13 milliards d'années.
Elles sont âgées de 13 milliards d'années. Donc les premières étoiles arrivent 500 millions d'années après le Big Bang et 300 millions d'années plus tard.
Non, mais alors quand je vous... Le 300 millions, c'est... Oui. C'est grosso modo, quoi.
Oui, grosso modo, mais c'est pour donner. Non, ce à quoi je veux arriver, c'est l'idée que voilà, la Voie lactée a un âge qui est tout à fait comparable à celui de l'univers.
Oui. Elle se forme assez rapidement.
Et donc, elle dure, quoi.
Oui, alors par contre, à cette époque-là, elle ne devait pas ressembler du tout à ça. Parce qu'entre-temps, il y a eu une vie mouvementée.
Alors, il y a quelque chose qui est assez magique dans... qui nous arrange bien dans la nature, c'est que la lumière ne voyage pas à une vitesse infinie, mais à seulement 300 km chaque seconde. Ce qui fait 300 000... Je n'y arriverai pas, je vais me planter 3-0 partout.
300 000 km par seconde, c'est ça, c'est ça, on est d'accord.
Et donc, plus en fait on regarde loin, par exemple, si on regarde le Soleil, comme il est à 8 minutes-lumière, on ne le voit pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Si on regarde l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, on ne la voit pas comme elle est aujourd'hui, mais comme elle était il y a 4 ans. Si on regarde la galaxie d'Andromède, on la regarde telle qu'elle était il y a 2 millions d'années, c'est ça ? Parce que là, je me plante tout dans mes trucs. Et ainsi de suite. On voit en fait des galaxies qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a 10 millions d'années, il y a 1 milliard d'années, il y a 5 milliards d'années, 10 milliards d'années. Donc en fait, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. On voit la galaxie quand elle était toute, toute jeune. Donc ça, c'est magique parce que ça nous permet de comprendre comment pouvait être l'univers quand il était jeune.
Alors la galaxie, vous m'avez dit, elle a une largeur de 100 000 années-lumière. Donc si je suis à un bord et que je regarde l'autre bord, je vois l'autre bord tel qu'il était il y a 100 000 ans. Mais donc voilà, je peux remonter 100 000 ans au maximum en arrière, je ne peux pas remonter plus que ça.
Dans la galaxie, mais dans l'univers, on observe des quasars qui sont à 10 milliards.
Mais la question, c'était quand même l'histoire de la Voie lactée. Parce que vous nous avez dit, ah oui, elle a une histoire mouvementée.
En fait, on avait une question avant Gaïa. Une des grandes questions auxquelles on espère que Gaïa puisse répondre, c'est comment se forme une galaxie ? Est-ce que c'est un effondrement d'un gros nuage de gaz ?
Juste après le Big Bang. Hein,
on
n'a pas encore d'étoiles.
Oui, les étoiles se forment. On a du gaz et des clumps,
des
grumeaux, enfin des gros grumeaux quand même, hein, parce que c'est ce qui va former les galaxies. Dans lesquels qui s'effondrent petit à petit, les étoiles se forment, les étoiles vont tomber dans le disque pour former des galaxies plus aplaties. Et puis, on sait quand même aussi depuis quelques années qu'il y a des petites galaxies naines qui se font manger par notre Voie lactée. Et la question, c'était quelle est.
On sait que des galaxies naines se sont fait manger par la
voie lactée. On voit en fait les traces, les traces de ces galaxies qui sont disloquées par, par les effets gravitationnels.
Et ça, on le voit, dites-vous, mais alors, c'est grâce à Gaïa ou on
non,
le sait.
Non, alors on l'avait vu déjà avec des grands relevés du ciel, le SDSS notamment, où on voyait des petites traces, des petites traînées sur le ciel qui étaient en fait une galaxie naine qui passait, ou un amas globulaire qui passait et qui se faisait. Complètement disloqué.
Donc, quand vous dites des traînées, c'est des traînées d'étoiles. C'est, on regarde où sont les étoiles et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a un mouvement d'étoiles.
Il y a quelque chose qui est passé par là, mais qui a subi les interactions gravitationnelles de la Voie lactée et qui, du coup, n'est pas resté compact, mais c'est en train de
c'est
se faire
disloquer.
Disloquer. Et en fait... et la question, c'est quelle est la part de notre galaxie formée par cette formation un peu classique d'un grand nuage de gaz ou la part d'étoiles qui ont été apportées par d'autres galaxies, des galaxies naines. Et ça, c'est une question complètement ouverte. Et Gaïa nous donne énormément d'indications là-dessus. Et c'est effectivement...
On va regarder ça, mais tu avais quelque chose à nous dire, Xavier ou... Ah oui, il avait quelque chose. Je le connais.
C'était pour paraphraser Céline. La Voie lactée a une histoire mouvementée. C'est pas si tendre, Milky, Milky, Milky Way. Elle est pas si cool, elle a même disloqué des galaxies naines. Et ça, c'est pas très fair play.
Elle n'est pas tendre, hein, la galaxie, la Voie lactée, c'est pas Milky Way. Bon. Alors, vous avez compris la règle du jeu mat de l'espace. Et à un moment donné, l'animateur, il se tait. Hein. C'est vous, hein. C'est vous qui faites le show. Moi, je vous passe le micro et vous en profitez parce que Céline Rallet et Olivier Lamar, là, il faut en profiter. Hein. Ah, bah voilà. Parce que sinon, moi, je fais ma petite conférence avec les deux intervenants. Non, l'idée, c'est que ce soit vous qui soyez nourris.
Bonsoir. Je me demandais jusqu'à quelle distance on pouvait observer grâce à Gaïa. Et est-ce que ces interactions-là entre diverses galaxies peuvent expliquer peut-être une altération de la vitesse des étoiles qui se trouvent le plus loin des galaxies, sur le bord externe?
Alors les distances, si on parle des étoiles dans la Voie lactée, on va au-delà du centre de la Voie lactée, donc on va jusqu'à, je dirais, 30 000, 40 000 années-lumière, mais pour les plus brillantes, hein, parce qu'évidemment, plus elles sont loin, quand elles sont loin, on voit pas celles qui sont les plus faibles, les plus petites. Mais après, Gaïa observe aussi des Voies lactées, des galaxies extérieures à la Voie lactée. Alors je sais pas, des quasars, qui sont des galaxies très, très, très... compacte, très brillante. Alors, je ne sais pas, la distance maximum des quasars détectés par Gaïa.
Là, on est dans les échelles de l'univers, donc on ne parle plus tellement en années-lumière. Hein. On voit, je pense, des quasars qui sont plutôt dans la jeunesse de l'univers.
Donc à plus de 10 milliards d'années-lumière.
Oui.
Donc ce n'est pas une histoire de distance, quoi. C'est une histoire de luminosité.
Voilà. Tout ce qui est au-dessus d'une certaine luminosité, Gaïa capte tout. Et alors, pour l'explication, je te laisse expliquer.
Vas-y.
Alors, oui, tu me corriges, mais je ne pense pas qu'on puisse expliquer les vitesses un peu bizarres des étoiles extérieures de la galaxie par d'autres galaxies environnantes, parce que les autres galaxies environnantes, on commence à bien les connaître. Alors, c'est des petites galaxies naines, par exemple les nuages de Magellan, qui sont des petites galaxies...
Ce n'est pas des nuages, enfin, c'est des nuages qu'on voit...
En fait, c'est des petites galaxies satellites de la nôtre. Qui finiront par se faire avaler aussi. Ça prend son temps, tout ça. Et ce n'est pas suffisant pour expliquer les perturbations de vitesse.
En fait, elles sont même utilisées, justement, parce qu'elles ont même été utiles pour essayer de voir cette histoire de matière noire, parce qu'on peut aussi mesurer leur vitesse autour du centre de la Voie lactée. Et on a montré, en tout cas avant Gaïa, que justement, leur vitesse était trop élevée par rapport à ce qui était attendu.
Les nuages de Magellan, ils sont très intéressants parce qu'ils ne sont pas très loin et Gaïa distingue les étoiles. Donc, on ne voit pas seulement les étoiles dans notre galaxie, mais aussi des étoiles des nuages de Magellan. Et donc, mesure aussi leur vitesse de rotation autour du centre. Il y a le petit et le grand.
Deux nuages, le petit nuage et le grand nuage.
Et par exemple, il me semble qu'on pense qu'il n'y a pas de matière noire dans les nuages de Magellan, parce que la vitesse de rotation des étoiles autour dans ces deux objets s'explique très bien avec les étoiles qu'on voit.
Hier, j'ai enfin acheté chez Casto un gigantesque lavabo. J'y ai laissé tout mon magot, même s'il est moins cher qu'un interféromètre. J'en suis très fier, il est si gros avec ses immenses bras spiraux. C'est la voie lactée de ma salle de bain, trop beau, mais ses bras finissent toujours dans les toilettes.
À tout à l'heure. D'autres discussions ? Non, c'est bon ?
Oui, je t'en prie.
On va croire que je monopolise le micro, mais je me demandais où était placé l'objet. Est-ce que c'est au point de Lagrange, au-dessus de la Terre ?
L'objet, c'est Gaïa, en l'occurrence. Hein. Où est Gaïa ?
Oui, alors c'est très simple. Vous tracez la droite Soleil-Terre. Donc ça doit faire 150 millions d'années.
La première chose qu'on peut dire, c'est Gaïa, c'est un satellite.
Deux kilomètres.
Gaïa, c'est un satellite.
Oui.
Sauf que, habituellement, quand on parle de satellite, on a l'impression que c'est un satellite qui tourne autour de la Terre.
Oui.
C'est pas le cas.
Et non.
Bon.
Alors, donc, on part du Soleil, on fait 1,5 million de kilomètres, on arrive à la Terre. 150 millions.
150 millions de kilomètres.
150 millions. On fait encore 1,5 million de plus, donc le centième, en s'éloignant, et Gaïa est là. Voilà.
Alors c'est le point de Lagrange numéro 2.
Voilà.
Donc il y a 5 points de Lagrange. On peut dire un mot des points de Lagrange, je n'ai pas montré la photo, mais les points de Lagrange, il y en a 5. Et ce sont des points d'équilibre, on peut dire quelque chose comme ça.
Il y a des
forces gravitationnelles qui s'équilibrent et un objet peut rester à cet endroit.
Voilà, ce sont des points particuliers du système Soleil-Terre dans lesquels la gravité Terre et Soleil combinés
se compensent
et fait que ces points sont stables, donc tournent avec la Terre. Ce qui n'est pas le cas d'un satellite en orbite basse, puisque lui, il ne tourne pas avec la Terre, il tourne autour de la Terre beaucoup plus vite. Donc c'est des points très particuliers. Alors ils ne sont pas complètement stables, en fait.
Ah,
De temps en temps, ça a tendance à dériver, donc il faut mettre un petit coup de tuyère pour...
Il ne faut pas s'imaginer que le satellite se met à ce point-là et ne bouge plus. En fait, c'est un point autour duquel on tourne.
On tourne autour de ce point-là, oui.
Ouais. Et Gaïa n'est pas tout seul. Il y a le JWST qui est là aussi.
Euclide.
Le James Webb Space Telescope.
Quelques anciens qu'on a mis sur une orbite de parking, Herschel, Planck.
Qui sont par là. Bon. Alors, est-ce que... Oui.
Merci. Vu que Gaïa suit à peu près la même trajectoire que la Terre, est-ce qu'on ne serait pas plus précis sur Terre pour faire des mesures de parallaxe ? Quel est l'avantage d'être dans l'espace ?
Alors, le problème, c'est que la Terre, c'est... Je ne vais pas être gentil pour mes collègues astronomes seuls, mais c'est pourri pour faire de l'astronomie.
C'est chaud,
c'est plein d'air qui est turbulent.
Il y a des nuages ?
Il y a des nuages.
Quelques nuages ?
Et même si on s'éloigne, même en orbite basse, c'est un radiateur la Terre. Donc, comme on a besoin de température ultra stable qui change pas, etc.
Pourquoi on a besoin de température ultra stable ?
Ah ben parce que, alors, on n'a pas parlé de la précision de Gaïa, mais pour vous donner une idée, Gaïa détecterait un objet. Si Gaïa était sur la Terre, Gaïa détecterait le mouvement sur la Lune équivalent à une pièce d'un euro. C'est-à-dire qu'un objet qui se déplace d'un centimètre en gros sur la Lune, Gaïa détecterait. Et donc le satellite tourne autour de son axe principal, là, et les étoiles défilent dans son champ de vue. Et il mesure très précisément en fait, le temps de passage. Converti en angle, et très précisément l'heure à laquelle les étoiles passent dans le champ de vue. Pour détecter des mouvements aussi petits que ce qu'on a dit, il ne s'agit pas qu'entre deux passages, d'une étoile et de l'autre, ou d'une étoile et puis le tour suivant, le télescope se soit un peu déformé. Parce qu'auquel cas, on verrait l'étoile passer un peu plus tôt ou un peu plus tard, et on croirait qu'elle a bougé, alors qu'en fait, pas du tout, c'est le télescope qui s'est déformé. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas de déformation. Et pour qu'il n'y ait pas de déformation, il faut qu'on prenne un matériau ultra stable. Donc, aluminium, inox, acier, vous oubliez.
Alors on fait quoi, alors ? Tungstène, non ?
Je pose la main sur une plaque de tôle, elle se déforme des milliers de fois plus que ce qui est tolérable pour Gaïa, donc rien que par l'effet thermoélastique. Donc on prend du carbure de silicium.
Carbure de silicium, d'accord.
C'est une sorte de céramique. Donc pour ceux qui en font, on s'en fait pas moi. Mais
de la céramique, vous voulez dire ?
Oui.
Ouais.
C'est horriblement compliqué parce que on ne sait pas ce qu'on va avoir à la sortie du four. On met quelque chose dedans.
À la céramique en général, oui, c'est affreux. Oui.
Voilà. Donc on met quelque chose et puis ça cuit et puis ça se déforme en cuisant. Puis à la fin, on ne sait pas ce qu'on a. Et donc là, c'est abominable. Mais par contre, une fois que c'est cuit, ça ne bouge plus. Là, c'est ultra stable.
Alors, où est-ce que vous le mettez, votre carbure de silicium là, si on...
tout
ce qu'on voit, c'est...
Donc, tout.
Ça a l'air métallique. Je pense que les verres, là, ne sont pas en carbure de silicium.
Non,
non d'accord.
Le tore, qui est la structure qui porte tous les objets du télescope, est en carbure de silicium.
Donc le pneu, là, le cylindre.
Les grands pieds, là, en V, sont en carbure de silicium. Les télescopes eux-mêmes, les miroirs, ils sont en carbure de silicium, qu'on a poli. Pour avoir l'effet miroir, le but, c'était de rien mettre d'autre. La première fois qu'on faisait ça, c'est Airbus à Toulouse qui a fait ça. Il faut qu'il n'y ait rien d'autre, parce que dès qu'on fixe un autre matériau dessus, qu'on le boulonne, forcément, il va y avoir des petites déformations, ça va tirer sur la céramique. Donc il fallait assembler et tout faire en carbure de silicium, qui est une technologie inventée par une PME, on ne parlait pas de start-up à l'époque, de Tarbes.
Ah oui.
Qui est aujourd'hui mondialement connu. C'est un matériau qui est utilisé par la NASA, par toutes les agences du monde, dès qu'il y a besoin de stabilité, parce que c'est un matériau qui ne bouge pas.
Elle s'appelle comment, cette PME ?
Elle s'appelle Boostec.
Boostec, très bien.
Boostec. Et c'est ce matériau miraculeux, très cher, très compliqué à produire, ça ne suffit encore pas.
Ah ouais, d'accord.
En plus, il faut que... Je crois que l'exigence de température de tout ça, de ce télescope, je crois qu'il ne faut pas que ça bouge de plus d'un dixième de degré dans toute la vie de Gaïa, qui tourne, donc qui voit des étoiles, parfois plus, parfois moins, les étoiles, même loin, elles envoient du flux, donc ça peut faire chauffer un peu le télescope. Eh ben, il ne faut pas que ça bouge de plus d'un dixième de degré.
Il y a le soleil aussi qui chauffe quand même.
Le soleil, il est derrière le grand disque, là.
C'est il est caché.
Ça,
il est caché. On tourne le dos au soleil, donc on ne voit pas... On n'est pas affecté par la température du soleil, par la chaleur du soleil.
Pour vous dire, quand Gaïa a été lancé, il a commencé à fonctionner. Dans les positions des étoiles qu'on mesurait, on voyait des petits glitches, des petits sauts. C'est-à-dire qu'une étoile avait une position et puis le coup d'après, pouf, elle avait une position qui avait...
Qui avait légèrement bougé.
Mais c'est pas normal. Ça, c'était assez normal. Et on a été assez long à comprendre ce qui se passait. En fait... Quand Gaïa a été lancé, il était à température au sol. Et puis après, une fois dans l'espace, il a mis des mois à atteindre sa température normale. Et puis là, on a commencé à observer. Mais...
On a attendu qu'il prenne sa température stable pendant des mois
On a fait des calibrations.
Ouais, c'est ça, quand même, des tests, etc.
Et une fois qu'on a commencé à observer, on avait quand même ces petits glitches. En fait, la température de l'ensemble n'était pas encore complètement stabilisée. Il y avait des petites variations, peut-être des fractions de degrés. Et ces variations de température occasionnent de temps en temps un petit réarrangement d'atomes. Ça, pour les motards, ils connaissent bien, vous arrêtez la moto et ça fait tic-tic-tic-tic-tic-tic. C'est le moteur qui refroidit et c'est la contraction, si vous voulez. Il n'est pas continu. C'est par petits... Toc-toc, il y a des petits réarrangements d'atomes au fur et à mesure que le métal se contracte. Et les petites fractions de degrés de variation de température sur des mois et des mois, ça réarrangeait de temps en temps quelques atomes quelque part dans le satellite. Et bien, on le voyait tout de suite sur les mesures. Donc c'est diabolique.
Mécanique de précision alors. Bon, d'autres questions ? Alors peut-être que on peut commencer à parler. Oh, vous savez de quoi on va parler ? On va parler de vos naines brunes. Elle est là, on est obligé, là, parce que c'est... Vous dites que vous êtes spécialiste des galaxies, mais vous êtes surtout spécialiste des naines brunes. Moi, j'avais cru comprendre, non ? Qu'est-ce que c'est qu'une naine brune ?
Donc, une naine brune, c'est une boule de gaz, hein, comme les étoiles, mais contrairement aux étoiles, elle ne brille pas autant. En fait, si une étoile brille, c'est parce qu'en son cœur, on a des températures qui dépassent 10 millions de degrés. Et à partir de cette température, on peut avoir des réactions de fusion nucléaire qui se mettent en place. Donc, quatre atomes d'hydrogène qui fusionnent pour donner un atome d'hélium. Et ça, ça produit une quantité assez colossale d'énergie. C'est la formule E égale MC2 qui nous dit ça. En fait, les quatre atomes d'hydrogène sont un peu moins lourds que l'atome d'hélium. Donc, on a une petite perte de masse pendant cette réaction. Et cette petite
un peu plus lourd,
ouais, merci. Et cette petite perte de masse, c'est le petit m de la formule E égale MC2. Elle est transformée en énergie E, donc E égale la masse perdue multipliée par la vitesse de la lumière au carré.
Et l'énergie, en l'occurrence, c'est de la chaleur. Elle se résout en chaleur.
Elle se résout en chaleur, en rayonnement.
Rayonnement.
Une fois arrivée à la surface de l'étoile. Et donc ça fait briller l'étoile énormément et très longtemps. Donc c'était même pendant longtemps, on s'est demandé comment une étoile pouvait briller aussi longtemps et autant aussi longtemps, avant de comprendre que c'était des réactions thermonucléaires de fusion nucléaire. Et il se trouve que la naine brune n'est pas assez massive, donc pas assez chaud dans son cœur pour démarrer de manière durable cette fusion de l'hydrogène en hélium. Donc elle ne brille pas autant.
C'est une petite étoile, une naine brune, c'est une petite étoile qui n'est pas assez grosse pour s'allumer, si je puis dire, de façon puissante.
Donc c'est une sous-étoile.
Sous-étoile, bon.
Bon, c'est pas une étoile ratée, c'est pas gentil, il faudrait retrouver autre chose parce que ça va pas, étoile ratée.
Non, mais on comprend l'idée.
Ouais. Et donc voilà, donc elles sont, du coup, elles sont assez brillantes quand elles se forment parce qu'il y a encore la chaleur de la contraction pendant sa formation, de contraction d'un fragment de gaz. Et puis au cours du temps, elles refroidissent, elles deviennent de plus en plus. Contrairement aux étoiles qui restent, le Soleil il va à peu près garder sa luminosité pendant 8 milliards d'années. Après, il va évoluer, il va gonfler, devenir une géante rouge et il va perdre ses couches externes. Ça va faire une nébuleuse planétaire et puis au cœur, il va rester une naine blanche. Mais la naine brune, elle est juste condamnée à se refroidir et devenir de moins en moins lumineuse.
Donc, il n'y aura pas toutes les transformations que le Soleil va connaître.
Non.
D'accord, elle va juste se refroidir. Et donc, une naine brune devient quoi ?
Rien.
Comment dites-vous ?
Rien.
Ah, rien, une naine brune qui s'est éteinte.
Elle s'éteint, gentiment. D'accord. Et alors, comme elles sont très froides, elles émettent dans quelle couleur plutôt ?
Rouge.
Ouais, et même comme elles sont très très froides, elles émettent même dans l'infrarouge.
Infrarouge. Enfin,
en tout cas, le proche infrarouge. Donc, le plus rouge que rouge. Elles sont plus rouges que rouge. Du coup, elles sont assez difficiles à détecter. Elles sont donc peu lumineuses, assez difficiles à détecter. La première, elles étaient expliquées par la théorie dès les années 60, mais il a fallu attendre plus de 20 ans pour découvrir la première naine brune. En fait, on a découvert les premières naines brunes en même temps que les premières exoplanètes. Et on peut se dire que Gaïa, qui observe dans le domaine visible, n'est pas le satellite, la mission la plus adaptée pour scruter ces astres.
Et en fait, je suis Gaïa, j'ai besoin de luminosité. Vous me dites que les naines brunes, elles émettent très peu de lumière.
Bah oui, mais Gaïa observe tellement de choses qu'il y en a quand même un petit paquet. Et en fait, en regardant, donc, c'était dans le deuxième catalogue de Gaïa. Donc tout... Alors c'était très facile, hein, c'était très scolaire comme travail. Il suffit de prendre dans le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, il suffit de prendre ce qui est en bas à droite, là.
C'est des naines brunes.
On sélectionne ce qu'il y a en bas à droite, hop, c'est des naines brunes.
Ce qui est très rouge.
Super facile à faire.
Donc ce qui est très rouge, donc la couleur très rouge, donc très froid, et en même temps, luminosité faible.
Voilà, et bien en fait, là, on en a quand même 15 000.
Ah, 15 000, 13, un truc.
13 000, okay. Qui n'étaient pas connus à l'époque. À l'époque, on en connaissait, confirmé, 3 000, et on est passé de 3 000 à 15 000, et c'est... Ouais, on a vraiment augmenté le nombre des découvertes.
Alors, des naines brunes, donc on a découvert plein de naines brunes, c'est ça ? Bon, magnifique, 15 000.
C'est pas anecdotique parce que c'est là qu'on voit que tant qu'on n'a pas de bons yeux, on loupe beaucoup de choses. Les naines brunes, on les connaît, mais on en observe pas beaucoup. Enfin, jusqu'à Gaïa, on n'en observait pas des masses. Elles ne sont pas faciles à trouver, elles ne sont pas très lumineuses. Elles peuvent être. Et puis, quand elles sont à l'autre bout de la galaxie, pas question de les détecter directement. Et selon le nombre et la taille des naines brunes, elles peuvent constituer une part non négligeable de la masse, parce qu'on a parlé de la masse manquante qui expliquée par la matière noire, mais on sait qu'il y a aussi une partie de la matière baryonique, comme vous le disiez.
La matière classique,
qui échappe à nos instruments, pour diverses raisons. Peut-être pas loin de la moitié dans l'univers de la matière qu'on devrait voir, on ne la voit pas parce que nos instruments ne sont pas assez sensibles, etc. Et les naines brunes en font partie.
Alors donc, on en a observé beaucoup. Bon, on en voit finalement dans toute la galaxie. Et ensuite, quelles sont les questions que vous posez à partir des naines ? Ah oui, une chose importante, c'est que les naines brunes, ce sont, on appelle ça aussi parfois des... Elles font partie de ce qu'on appelait les astres errants, ou est-ce qu'il y a des systèmes ? Ce sont des étoiles ratées, c'est pas très gentil, mais est-ce qu'il y a des systèmes ? Est-ce qu'il y a des planétoïdes, des planètes un petit peu autour, des lunes autour de ces planètes, etc.
Alors, il peut y avoir, par contre, juste pour oui. corriger par rapport aux deux ovales, on ne voit pas dans toute la galaxie. On les voit sur tout le ciel. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle dans toute la galaxie, mais elles sont vraiment proches de nous. Donc, elles sont vraiment en avant-plan, mais sur tout le ciel. On ne les voit pas très loin dans la galaxie. En fait, on en a même découvert qu'ils sont vraiment très proches à quelques dizaines d'années-lumière, et donc ce qui veut dire qu'on connaît même pas nos voisins, en fait. Il y en a encore
qu'on connaît pas nos voisins.
Bon. Et
en même temps, ils sont discrets.
Oui, ils sont très discrets. Et ce qui est intéressant avec ces naines brutes, c'est qu'elles font un peu le lien, enfin la transition entre les plus petites étoiles. En bas à gauche, on a une représentation avec ce qui serait le Soleil.
Alors, ce qu'on voit dans le fond, là, l'espèce de quart d'orange, là, avec les petites taches noires, c'est le Soleil. Ouais.
Donc, c'est le Soleil. Le cercle rouge, c'est les plus petites étoiles. Donc, elles ont des réactions nucléaires. Donc, ce sont des étoiles. Et puis après, on va aller vers des choses plus petites. Et après, on a des planètes de type Jupiter, planètes gazeuses.
Et dis donc, votre naine brune, elle n'est pas tellement plus grande qu'une grosse planète comme Jupiter.
C'est ça. Wow. Et en fait, c'est vraiment intéressant de les observer. Donc après, faire aussi des observations de suivi, y compris avec des télescopes depuis le sol, pour mieux les comprendre, parce que leurs propriétés un peu physiques ressemblent beaucoup à ce que peut être une planète géante gazeuse, sauf que les exoplanètes qu'on observe autour des étoiles, elles sont difficiles à caractériser parce qu'elles sont noyées dans la lumière de leur étoile hôte. Et donc, c'est aussi important de comprendre les naines brunes pour mieux comprendre les exoplanètes. Et donc après, effectivement, ce sont des naines brunes qui sont isolées dans la Voie lactée, qu'on pourrait appeler des astres errants. Il peut y avoir aussi, elles peuvent être aussi compagnons d'autres étoiles ou compagnons d'autres naines brunes, et on peut aussi effectivement avoir des planètes autour de ces naines brunes.
Olivier, je me permets de m'adresser à vous parce que vous avez commencé la soirée en disant que Gaïa, vous n'y compreniez plus grand-chose, ça restait quand même assez mystérieux pour vous. Je pense que, en fait, vous avez un petit souci de stabilité, vous manquez de stabilité, et pour vous le dire, je suis en plus obligé de vous tutoyer parce que sinon ça marche pas avec la rime. Alors voici ma chanson. Je me permets de te dire, Olivier, que tu manques de stabilité. Je te dis, il ne faut pas que tu tardes. Tu dois filer dès ce soir à Tarbes, à Boustex et Impec, pour retrouver ta stabilité. Car à Carbe, on carbure au silicium toute l'année.
Merci.
Ça tient un peu du gag, mais je vois la liste des types d'étoiles. Alors, je reconnais écrit droite à gauche, classique. Alors, il y avait le truc mémotechnique. Oh, be a fine girl, kiss me. Mais alors, après, ça se gâte. C'était les OBAFGKM. C'était le truc pour retenir l'ordre de la classification des étoiles. Et alors, après, il y avait RNS, right now, sweetie. Et là, il y a LTY, que je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir changé la classification?
Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les types spectraux des étoiles, qui sont en fait classés par température. Alors, au départ, c'était la classification, c'était plutôt A, B, dans l'ordre alphabétique. Et on s'est aperçu, en fait, que ces classifications, la forme du spectre, en fait, dépendait de la température de l'étoile. Donc, on les a reclassés par température. Donc, les plus chaudes, qui sont les plus grosses, vers les plus petites et les plus froides. Donc, les plus chaudes, comme une étoile O, elles sont des dizaines de fois plus grosses que le Soleil, 10 fois plus massives que le Soleil. Les plus petites étoiles, donc les naines rouges, qui sont de type M, elles sont 10 fois moins massives et 10 fois plus petites que le Soleil. Le Soleil, c'est une étoile G. Donc, on voit que c'est une étoile ni très grosse, un peu classique. Et donc, on a effectivement cette séquence OBAFGKM, OB Fine Girl Kiss Me, pour s'en souvenir. Et après, quand on a découvert les naines brunes, on a dû faire des nouvelles classifications, parce qu'on a vu qu'on découvrait des astres qui avaient une forme du spectre totalement différente des naines M. Et puis, donc, il a fallu faire une nouvelle classification et la lettre L était encore disponible. Donc, on a pris la lettre L. Ensuite, on en a découvert encore des un peu plus froids, un peu différents, dans lesquels on s'était vu apparaître des grosses absorptions du méthane, par exemple. Et bon, là, la lettre T était disponible. Donc, on a pris la lettre T et jusqu'aux naines Y, qui sont les plus froides. Les naines Y, on arrive à des naines qui ont quelques masses de Jupiter et pratiquement la température de Jupiter.
Alors, je sais qu'on parle d'autres lettres et même d'un chiffre, c'est DR4. DR4, c'est le nom d'un jalon extrêmement important dans l'histoire de Gaïa. Qu'est-ce que c'est que ce DR4? Donc c'est le data release, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est la publication, c'est un batch de publication de données qui doit avoir lieu quoi, en 2025?
Je cherchais comment on pourrait faire de DR4 un acronyme de cauchemar ou de nightmare.
Ah zut, parce que c'est dans le cauchemar là.
C'est dur.
Aïe, oh zut.
C'est dur. Alors le 2025, il va être plutôt 2026.
2026, d'accord. Ah,
voilà. Gaïa devait fonctionner 5 ans.
À l'origine, c'était prévu comme ça.
C'était prévu comme ça.
D'accord.
Donc, de lancer fin 2013, donc il a commencé à observer en 2014 jusqu'à 2019, 5 ans. Il marchait bien, il avait encore du gaz pour contrôler sa vitesse de rotation, sa position. On a décidé de l'étendre au maximum. Il va s'arrêter bientôt, en janvier ou février. Et donc, il aura fait
10 ans. De là, dans quelques mois.
Oui.
D'accord.
Donc, il aura fait 10 ans. Il aura acquis 10 ans de données. La DR4, c'est depuis 2019, ça va être le traitement des données de ce qu'on appelle la mission nominale, donc les 5 premières années. On en est seulement, en 2026, à sortir les résultats des 5 premières années de 2014 à 2019. Tout ce qu'il a enregistré depuis 2019 à 2024-2025, c'est en base de données, ça attend, on le traitera après. C'est très long et très compliqué. Donc voilà.
L'expression, vraiment adéquate, c'est le traitement de données.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a les données brutes fournies par Gaïa, mais ensuite, il y a un énorme travail qui est réalisé pour identifier justement qu'est-ce que je vois. Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est un trou noir? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Quelle est la couleur? Quelle est la température? Etc.
Oui, parce qu'en gros, le satellite, ce qui renvoie au sol, c'est une position dans la caméra et une date. Il dit... J'ai détecté quelque chose à telle heure, telle milliseconde, à tel endroit dans la caméra, c'est une grande caméra. Bon, il donne aussi le spectre de cet objet, donne sa couleur, etc. Mais des comme ça, comme je disais tout à l'heure, il y en a des millions presque chaque minute ou chaque heure. Donc voilà, tout ça, ça redescend au sol. Et comme le disait Céline, il y a tout là-dedans. Il y a des astéroïdes, des étoiles, des quasars. Il y a des choses qui... Il y a même des supernovas qui apparaissent et puis qui disparaissent. Donc on ne les voit plus le coup d'après.
Supernova, c'est une étoile en fin de vie, hein, qui explose
voilà.
De façon brève.
Il y a des choses qui bougent beaucoup d'un tour à l'autre, parce qu'on les revoit, ces objets, comme des astéroïdes. Mais il y a des choses qui bougent peu. Alors, comment savoir que deux choses qui ont deux points à deux endroits différents, deux dates différentes, en fait, c'est le même, mais qui a beaucoup bougé. Donc tout ça... On donne ça à un grand consortium de scientifiques qui s'appelle le DEPAC, 400 scientifiques et ingénieurs.
Comment dites-vous ?
DEPAC.
DEPAC ?
Oui, Data Processing and Analysis Consortium. Donc ce sont des scientifiques comme Céline, des ingénieurs, qui passent leur temps à transformer ça en ces magnifiques résultats qu'on voit. Je ne dirais pas... sans être payés pour ça, enfin si, sans être payés pour ça, ils sont payés par ailleurs, mais en fait, pendant ce temps-là, ils ne font pas forcément des articles scientifiques, ils font toute cette analyse qui nécessite des millions de lignes de code de logiciels et des supercalculateurs pour arriver à tirer les aiguilles des bottes de foin, comprendre, ça a l'air facile, quand on dit, ben voilà, on a trouvé 13 000 naines brunes, en fait, on a vu 13 000 tâches. Alors Céline dit oui, c'était facile, il suffit de regarder les couleurs, etc. Enfin, il faut un petit peu d'expérience. Et puis surtout, comme c'est des millions et des milliards de mesures répétées, il est hors de question de faire ça à la main. Donc il faut des logiciels, on lance, ça tourne parfois pendant plusieurs semaines sur des supercalculateurs, et à la fin, ça donne un résultat, et on veut avoir confiance dans ce résultat. Comme je disais, on veut être capable de dire, ça c'est une étoile de type temps, on est certain à 99%, donc il faut que le logiciel soit capable de donner la fiabilité. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler, elle ne sait pas faire ça. Elle va pas nous dire, elle va nous dire, ça c'est une étoile. Mais oui, mais à quel pourcentage de fiabilité ? Je sais pas. Et ça, c'est pas bon pour la science. Il faut la fiabilité. Donc, c'est extrêmement compliqué. On a parlé des astéroïdes. Les astéroïdes, ça a des mouvements très particuliers par rapport aux étoiles. Et une des grosses difficultés, d'ailleurs, je me souviens, entre la DR1 et la DR2, c'est que quand on a fait la DR1, donc c'était un sous-ensemble beaucoup plus restreint d'étoiles et d'objets. Et quand on a fait la DR2, les calculateurs ont sorti beaucoup de nouveaux objets dont on ne savait pas trop si c'était vraiment des nouveaux objets ou ceux de la DR1 qui étaient réobservés. Et donc, il a fallu pas mal de temps pour rabouter les mesures. Donc maintenant c'est rodé. Mais c'est extrêmement compliqué. Des champs d'étoiles observés... avec notre œil, on voit que quelques étoiles quand on pointe. Mais Gaïa envoie des milliers concentrés dans une tête d'épingle. Donc, il faut qu'on arrive à distinguer ça. Elle se marche dessus un peu. Et il faut quand même les distinguer.
C'est un cauchemar, Céline Rellet ?
Oui.
Olivier Lamar ? Ah, d'accord. Vous êtes...
Non, c'est un travail assez répétitif, en fait. Donc, effectivement, le consortium est vraiment... organiser et regrouper chacun un peu sa tâche. Moi, je participe à la partie validation. Donc, on a des catalogues d'étoiles qui sont fournis par d'autres personnes dans le consortium.
Sous quelle forme ?
Un tableau Excel. Non, c'est pas un tableau Excel, non. Mais c'est comme ce catalogue, une ligne égale une étoile avec 80-90 paramètres à chacune des étoiles. Et donc, on est tout un groupe, on est une vingtaine, comparer avec d'autres observations. Donc moi, c'est plutôt comparé avec le modèle de la galaxie de Besançon, enfin une version de ce modèle qui est intégré au simulateur de Gaïa, pour voir s'il y a eu des problèmes dans la chaîne de traitement, s'il y a des choses bizarres, pas du tout réalistes. Et ça, là, on en est, pour la DR4, on en est à la quatrième intégration du catalogue. Donc, ces tests, on l'a fait une fois.
C'est la quatrième validation que vous réalisez, c'est ça ?
Pour DR4.
Oui.
Pour DR4. Donc, depuis, on a dû commencer en 2022. Donc, en 2 ans, on a déjà fait 4 fois ce genre de comparaison.
Ce qui veut dire que vous avez trouvé des erreurs ou des choses bizarres.
Oui.
Donc vous avez dit aux autres équipes, refaites le traitement. Il y a des... Corrigez vos logiciels.
Oui. Quand vous voyez un problème, vous êtes obligé de signaler aux autres pour qu'ils en tiennent compte.
C'est ça. Et donc, effectivement, donc on fait ce travail. Et le catalogue, une fois qu'on est content, il est publié, il devient public. Donc, il devient public pour toute la communauté scientifique. Et en fait, il devient public pour nous aussi, en même temps que tout le monde. Donc, le consortium n'a pas de temps prioritaire, en fait, comme il peut y avoir. Je pense que c'est la seule mission spatiale qui est comme ça, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas comment ils nous ont eu. Ils nous ont fait signer un papier comme quoi vous vous engagez à ne pas utiliser les données avant qu'elles soient devenues publiques. Donc, des fois, c'est un petit peu rageant parce que, en plus, pendant qu'on fait ce travail, on n'a pas forcément le temps de s'amuser avec les données pour faire de la science. Mais bon, je pense que quand même... je pense qu'on a quand même probablement une meilleure connaissance des données qui nous permettent d'aller peut-être plus rapidement vers des résultats scientifiques.
Et chaque data release remouline toutes les données depuis le début. C'est-à-dire, on pourrait se dire le DR2 va capitaliser sur ce qui s'est fait dans le DR1 et ne va faire que des adjonctions. Non, on reprend toutes les données depuis le début à chaque fois.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un traitement global. C'est-à-dire que, en particulier pour calculer les positions des étoiles... je vous ai dit, c'est une date de passage dans le champ de vue. En fait, il y a 2 télescopes. Alors, on mesure à la fois, ils sont dépointés de 105 degrés. Donc, en permanence, on envoie sur la caméra des images de 2 portions du ciel complètement différentes. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, on fait de l'écartométrie, le fait de regarder deux zones du ciel très, très différentes. Ça permet de diminuer les erreurs, parce qu'on mesure des écarts. En fait, ça revient à mesurer des écarts entre les étoiles, entre des paires d'étoiles. Et des paires d'étoiles, quand il y a 1,5 milliard d'étoiles, ça fait une combinaison infernale. Donc, ça fait une combinaison de centaines ou de milliers de milliards de mesures qu'il faut transformer ensuite en position sur le ciel. Et on a besoin de toutes les étoiles pour faire ça. C'est un traitement qui prend toutes les étoiles à chaque fois. Donc en fait, concrètement, les centres de calcul, il y en a 6 répartis en Europe.
6 centres de calcul.
6 centres de calcul qui se répartissent la tâche. Je sais que celui du CNES, il avait, on parle en termes de cœur de calcul, pour les spécialistes du calcul haute densité, il en avait 1000 les premières années.
1000 cœurs.
1000 cœurs, et on n'arrête pas d'en rajouter, c'est prévu. À chaque nouvelle data release, pour chaque nouvelle data release, on incrémente. On ne l'a pas fait dès le début, parce qu'on sait que les performances s'améliorent. Donc les calculateurs qu'on achetait en 2013, ils ne valaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc on y va par petite dose et on rajoute à chaque fois des machines. Donc il a fallu penser le système pour qu'il soit expandable.
Voilà. Ça puisse s'agrandir. Alors pour terminer, je voudrais qu'on parle de 3 choses. La première, c'est vous dire d'abord qu'à chaque data release, il y a des choses nouvelles qui sont ajoutées. Alors j'avais noté des petites choses. Ah oui, voilà, c'est ça. Sur le data release numéro 1, la première publication, on a juste la position et la distance des corps. En data release numéro 2, on a eu aussi le déplacement sur la voûte céleste, la vitesse, les couleurs. En DR3, on a eu aussi la composition chimique, les astéroïdes, etc. Mais donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de choses. Et là, avec le DR4 qui arrive en 2026, on va avoir pour la première fois des exoplanètes qui ont été découvertes par Gaïa. Alors comment se fait-il que... Donc des exoplanètes, vous savez, ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil. Alors comment se fait-il que Gaïa soit en mesure de détecter des exoplanètes que d'autres moyens ne sont pas capables de détecter, notamment les moyens au sol?
Alors, c'est ce qu'on appelle des détections astrométriques. En fait, le fait qu'une planète tourne autour d'une étoile fait que l'étoile n'est pas fixe, mais elle tourne aussi autour de ce qu'on appelle le centre de masse commun entre la planète et l'étoile, par exemple.
Donc la planète aussi, elle attire un petit peu l'étoile.
La planète attire un petit peu l'étoile.
Et donc, elle fait aussi un petit peu tourner l'étoile.
Voilà, donc par exemple, les planètes du système solaire, et en particulier Jupiter, qui est la plus grosse, elle perturbe le Soleil. En fait, ne se déplace pas de manière rectiligne, on va dire, autour du centre de la Voie lactée, mais il a un petit mouvement d'oscillation dû au fait des planètes qui tournent autour du Soleil. Et ça, on arrive à le détecter avec Gaïa, encore une fois, parce qu'il fait des mesures, des positions hyper précises. Et on s'attend à détecter des planètes de type Jupiter.
Des grosses planètes, qui ont une grosse influence gravitationnelle sur leur étoile.
Oui, mais quand même assez éloignées de l'étoile, qui sont des choses plus difficiles à détecter par les autres méthodes. Donc c'est vraiment une méthode indirecte, on ne va pas faire une image de la planète, on la détecte parce qu'on voit qu'elle perturbe le mouvement de l'étoile.
Donc on lit la présence d'une exoplanète dans les mouvements de l'étoile. Mm. Et on a découvert combien d'exoplanètes comme ça dans le DR4, à votre avis, vous avez une idée du nombre d'exoplanètes qu'on pourrait apporter?
Alors je crois que l'estimation, c'est ce compte en milliers.
Ah bon, carrément?
Oui.
D'accord.
J'avais vu 20 000,
ah ouais,
sachant qu'on en connaît 5 000 aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, on en parle comme ça. On va multiplier par 4, enfin par 5 en l'occurrence, le nombre d'exoplanètes connues, quoi, avec, grâce à Gaïa. Waouh, le jour où ça va sortir, ça va être massif. Hein. On va refaire un nouveau mardi d'espace, rien que là-dessus. D'accord, j'ai compris. Alors, autre sujet, là il y a une petite anecdote, mais qui est absolument... incroyable que vous m'avez raconté, Olivier Lamarre. C'est un petit problème qu'on a détecté à bord de Gaïa aux lumières parasites. Ça dit moins de choses.
Il faut prendre l'image. Donc c'est une vue d'artiste, hein, du satellite, mais qui est assez réaliste. Et donc vous voyez qu'il y a ce grand écran solaire qui s'est déployé dans l'espace. Hein, évidemment, là, c'était replié pendant le lancement. Donc, ça fait à peu près pratiquement la taille d'un terrain de tennis.
La grande assiette, c'est...
La grande assiette, voilà.
C'est un terrain de tennis, waouh.
Voilà. Donc, c'est un panneau solaire. Il y a des panneaux solaires derrière qui alimentent le satellite en énergie. Et puis, c'est isolé. Vous voyez, il y a plusieurs couches. Le but, c'est de faire un écran thermique. Et il est large parce qu'on veut que dans n'importe quel mouvement du satellite, pendant sa mission... tout le cône central dans lequel il y a le télescope qui fait ses mesures soit complètement à l'ombre. Qu'il n'y ait jamais le moindre rayon de soleil qui vienne toucher ça, parce qu'encore une fois, le thermoélastique, etc. Et quand on a lancé le satellite et qu'on a commencé à le faire tourner, on s'est aperçu qu'à chaque tour, il y avait ce qu'on appelle de la lumière parasite, c'est-à-dire qu'il y avait de la lumière qui venait éclairer une partie des détecteurs qui n'étaient pas des lumières d'étoiles. C'était plutôt diffus, c'était comme un voile. Et ça, c'est très embêtant parce que quand on veut détecter des étoiles faibles, justement, on les voit à peine dans le détecteur, comme on voyait tout à l'heure une image avec des courants très faibles, si en plus on est un peu ébloui, ben là, on ne voit plus rien. Et on a mis aussi du temps à... Donc ça, c'est les équipes d'Airbus, hein, notamment, qui ont construit le satellite, qui se sont beaucoup gratté la tête et qui ont fait ce qu'on appelle des modèles, des simulations. Et en fait, on pense que cette lumière parasite qui nous embête tant, on s'en est débrouillé depuis, elle provient d'un petit fil qui a été mal coupé sur le bord de l'assiette. C'est-à-dire que l'assiette, vous voyez, il y a de l'isolant, là, c'est ce que... multi-layer insulation, là, des isolants, c'est des multicouches très fines d'aluminium et de tissu isolant. Ça a été découpé très proprement et collé pour épouser le forme, mais pas si proprement que ça. Il y a un endroit... Vous savez, comme quand vous coupez du tissu, paf, il y a un petit fil qui dépasse un peu. Et ce petit fil, il intercepte le soleil. Lui, il est éclairé, puisqu'il est au bord, là, il voit le soleil. Il est éclairé. Et vous voyez, quand vous éclairez un petit fil avec une lampe, on le voit un petit peu briller par... il diffracte, voilà. Et donc, il renvoie de la lumière un petit peu partout, y compris dans le télescope, qui, vous l'aurez compris, est à 5 ou 8 mètres de là. Ça rentre quelque part dans une des cavités, ça se réfléchit et voilà, et ça vient, ça suffit.
Ça vient, pour... Ça impressionne le.
Voilà, donc on s'en est débrouillé. Je crois qu'on a modifié la rotation du satellite pour que voilà. Donc,
on a modifié la rotation. On oriente le satellite différemment, voilà, pour que on ne soit plus jamais embêté par ce petit fil.
Pour la petite histoire, Euclide, qui a été lancé l'an dernier, a connu exactement le même problème. Mais alors beaucoup plus massif, parce que lui, c'est une tuyère, c'est un des moteurs, des petits moteurs qui sont un peu déportés sur le côté, et le constructeur s'était pas aperçu que dans certains dépointages, cette tuyère passe au soleil et également réfléchit de la lumière vers le télescope. Donc là également, donc comme quoi c'est un problème récurrent sur les télescopes d'astronomie, on a toujours des problèmes de lumière parasite.
France, à Nice, Saint-Tropez. Quand en France on veut prendre l'air, on y descend à vive allure. C'est normal que le système solaire soit étudié sur les Côtes d'Azur.
Alors pour terminer, on a envie de parler d'avenir, de se projeter un petit peu. Est-ce qu'il y a un Gaïa 2 prévu? Et est-ce qu'on va avoir des concurrents à Gaïa, par exemple des États-Unis, de la Chine, que sais-je?
Alors sur la deuxième question, je crois qu'on peut dire non. C'est un domaine...
Il n'y aura pas de concurrents?
Non.
L'Europe est là?
Il n'y a rien de prévu dans les plans des grandes agences. Il n'y en a pas 36, comme vous le dites, c'est la Chine, les États-Unis, le Japon. Ils ont d'autres priorités complémentaires. En fait, c'est un champ qui... l'Europe a tellement d'avance qu'il le laisse à l'Europe, surtout que l'Europe...
L'Europe a tellement d'avance, c'est ça la raison.
Sur ce domaine-là, ouais. C'est historique. Et comme le disait Céline, l'Europe a le bon goût de faire le travail et de le mettre à disposition des autres. Donc, ils n'ont pas non plus tellement besoin de...
Parce que la donnée est ouverte ensuite, elle est partagée. Mais c'est ce qui est le cas en général.
C'est ce qui est le cas en général.
Avec la donnée spatiale.
Mais avec en général une petite période de 6 mois à 1 an réservée pour les scientifiques qui ont fait le travail.
Là, ce n'est pas le cas.
Et là, ce n'est pas le cas.
Céline Rélé, il faut râler là, non?
Bah non, mais je ne sais pas, j'ai signé le papier. Hein. J'étais consentante, mais bon, c'est vrai qu'après coup, on s'est dit, mais pourquoi on a fait ça?
Bon, on va falloir changer ça pour la prochaine fois.
Et alors oui, pour la suite. Alors la suite, il y a dans les cartons de l'Agence spatiale européenne qui a fait il y a quelques années un grand exercice d'appel à la communauté. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, c'est pas que après Gaïa, c'est après Gaïa, Euclide, Bepi Colombo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les grandes missions du futur? La prochaine grande mission que l'ESA commence à préparer, c'est une mission vers Encelade, une lune de Saturne. Mais la mission suivante, dite L5, qui serait pour les années 2050, ça pourrait être un Gaïa dans l'infrarouge.
Ah d'accord.
Parce qu'effectivement, alors outre les naines brunes, il y a beaucoup d'intérêt à observer dans l'infrarouge, en particulier parce que Gaïa observe dans le visible, et dans le visible, il y a des nuages de poussière, hein, dans la Voie lactée, il y a des nuages de poussière, et c'est opaque. Donc les étoiles qui sont derrière ces nuages de poussière, on ne les voit pas. Et quand on disait, on regarde les étoiles de l'autre côté du centre de la Voie lactée, ça devient assez vite compliqué parce qu'on a beaucoup de matériel sur la ligne de visée. L'infrarouge a le bon goût de passer à travers ces nuages de poussière. Et donc, elles sont transparentes, quoi. Donc, on pourrait observer des étoiles beaucoup plus loin et complémentaires, en fait, à celles de Gaïa.
Il y a aussi le fait que Gaïa... On a effectivement ces naines brunes, mais bon, finalement, c'est quelques dizaines de milliers. Et aussi toutes ces petites étoiles, les naines rouges, donc qui vont émettre aussi plus dans le rouge, c'est pensé l'infrarouge proche, et qui constituent les deux tiers de toutes les étoiles de la Voie lactée. Donc c'est vraiment une composante majoritaire, en fait, de notre Voie lactée.
Naines brunes, naines rouges, ce sont les deux tiers.
Naines rouges en particulier.
Naines rouges surtout, rouges, c'est ouais. Ça qui... Il y a beaucoup plus de naines rouges que d'étoiles brillantes.
Oui.
Donc les scientifiques nous ont encore menti. Tout à l'heure, ils nous ont dit qu'avec 1% des étoiles de la Voie lactée, ça nous suffisait, mais en fait, ça ne leur suffit pas.
Non, mais ça nous suffit pour les 30 ans, pour l'instant, à venir.
Pour l'instant, ça nous suffit pour l'instant. Bon, vous avez bien noté, c'est la quatrième fois qu'on consacre un mardi de l'espace à Gaïa, mais à chaque fois, c'est une découverte, on redécouvre. C'est une aventure scientifique, technique, informatique, même absolument hallucinante, avec des découvertes à chaque fois. Donc voilà, c'est ce qui motive le fait qu'on en reparle avec là toutes ces naines brunes qu'on a découvertes, ce nouveau questionnement autour de la matière noire, le fait qu'on découvre ces espèces d'arcs autour de la Voie lactée, voilà, ça n'arrête pas. Prochaine étape 2026, c'est DR4. Normalement, 2030, c'est le DR5. 4 ans plus tard, donc il va falloir cravacher là aussi, j'ai bien compris. Et puis ensuite, peut-être un autre Gaïa, mais plus dans les années 2050. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Est-ce que vous auriez l'amabilité de remercier, s'il vous plaît, Olivier Lamarle et Céline Rélé pour leur présence? Merci beaucoup à vous de nous avoir fait vivre cette belle aventure. Alors, quant à nous, on se retrouve dans un mois. Alors, attendez que je regarde la date, c'est 19 novembre. Mardi 19 novembre, on va donc parler de Dorn, cet instrument tout à fait étonnant, réalisé par le CNES, franco-français. Et qui est allé sur la Lune et qui nous en apprend plus sur la Lune. Je vous souhaite une excellente soirée. Est-ce que, avant de se quitter tout à fait, on peut aussi, s'il vous plaît, remercier deux personnes qui sont là et qui participent à la réussite de ces mardis de l'espace? C'est Sophia au son, et puis surtout Lisiane Soulmi qui est là et puis qui organise, qui crée ces mardis de l'espace. C'est à elle qu'on doit tous ces beaux sujets qu'elle a mis à notre disposition. Merci Lisiane, merci Sophia. Xavier, à la prochaine. Et puis nous, on se retrouve aussi très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.